Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
L'apocalypse est notre chance. 10e épisode.
Willy Nasser, un de mes étudiants, avait fait un mauvais choix. Et je lui avais proposé une mauvaise solution.
On a dormi dans le gymnase avec quelques étudiants et le type de la sécurité nous a gaulé. On a tous passé en conseil de discipline.
C'est pas vrai, Willy! Mais qu'est-ce qui vous a pris?
J'ai plus d'appart, j'ai pas le fric pour payer l'hôtel. J'ai essayé dehors, mais c'est pas possible. Moi, je voudrais étudier, c'est tout. J'aurais peut-être monté dans la soute d'un avion et retourner chez ma mère.
Arrêtez vos bêtises.
Je vous ferai des blagues bientôt, promis. Mais là, je voulais juste vous dire que pour le moment, je savais pas trop si j'arriverais à venir en cours les prochains jours. D'abord que je m'occupe de tout ça.
Vous allez venir chez moi. On va discuter tranquillement et réfléchir à une solution.
Maintenant, nous étions tous les deux dans les ennuis jusqu'au cou. Mais ce n'était rien comparé au fait que Christine Collat m'avait imposé des conditions intenables pour finir ma thèse.
La thèse, Vincent, elle veut que je rende ma thèse dans 3 semaines.
Mon père, elle est folle, qu'est-ce qu'il lui prend ?
Depuis la mort de Luc, elle me harcèle. Les archives de Luc, elle a eu que ça en tête. Et maintenant, ma thèse !
Je vais te voir.
Elle faut aller 6 années de boulot, 6 années de recherche.
Christine était sur le point de partir de son bureau lorsque Boiron lui a fait la surprise d'une visite.
Vous n'auriez pas dû.
Je ne voulais pas rester sur notre méchante conversation de la dernière fois.
Elle est magnifique. J'adore les orchidées. Merci.
Je vous en prie. Et si je vous emmenais dîner?
Comme ça, ce soir?
Alors, je vous enlève. Je peux vous assurer que j'en ai les moyens.
Oh, François.
Vous venez?
J'ai fait ce qu'il fallait, vous savez, j'ai mis Laura Vanetti sous une pression maximum, j'ai avancé la date...
Vous me raconterez ça une fois que nous serons attablés. Je connais un endroit charmant et discret.
Si je comprends bien, tout est déjà prévu.
Aucunement, je ne demande qu'à être surpris.
François.
Nous y allons?
Oui. Oui?
Christine, t'es encore là, je voulais...
Vincent, je te présente François Boiron, un ami. François... Un de mes docteurs les plus talentueux, Vincent Deray.
Ravi de faire votre connaissance.
Deray? Vous êtes lié à Jean-Claude Deray, l'inspecteur des finances?
C'est mon oncle.
Et vous êtes le fils de Jean-Charles, bien sûr. J'ai eu l'occasion de rencontrer votre père.
Navré de vous avoir dérangé, je repasse demain.
De quoi voulais-tu me parler?
Je voulais te toucher un mot de Laura Vanetti, mais on voit ça demain. Au revoir, monsieur. Christine.
Il peut savoir quelque chose?
Absolument pas.
Si vous le dites. Nous y allons alors.
J'avais donné rendez-vous dans un café à l'une des maîtresses de conférence qui siégeait au conseil de discipline de l'université.
Des étudiants qui squattent les locaux pendant des mois, ça ne s'était jamais vu. On doit siéger cet après-midi pour voir ce qu'on fait.
Il risque quoi?
Normalement, la fac devrait porter plainte. Mais je pense que Collat va tout faire pour que l'affaire reste en interne. Avec la mort de Payron et de Frégo, on a déjà ce qu'il faut comme mauvaise presse.
Connaissant Collat, elle va forcément leur appliquer une sanction.
Moi, je serai pour une exclusion d'enseignement supérieur d'au moins 2 ans.
Mais ça fout toutes leurs études en l'air.
Oui, mais l'université a déjà du mal à survivre. Hein. Elle prend l'eau de partout. Si on laisse les étudiants squatter les locaux, le ministère aura beau jeu de nous taper sur les doigts.
C'est juste que... Je connais un étudiant qui faisait partie du groupe. Un très bon élément.
Désolée pour lui. Il aurait dû réfléchir avant de s'embarquer dans cette galère.
Il n'a pas eu le choix. Il bossait plus de 20 heures par semaine pour financer ses études, mais il a été viré. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Excusez-moi. Monsieur, combien on vous doit?
Alors, 2 cafés, 3,60 s'il vous plaît.
Attends. Laisse, je t'invite.
Merci. Écoute, je te promets que je mettrai pas d'huile sur le feu. Lors du conseil.
Merci. Merci. Au revoir.
Merci, bonne journée.
T'y vas, toi, à la veillée lecture en hommage à Nefrego?
Je suis pas au courant, c'est quand?
Ce soir. Mais c'est con, organiser ça à Blainville, et à la dernière minute. J'ai même pas reçu l'info, j'ai entendu Watkins parler de Blainville au téléphone, et quand je lui ai demandé ce qui s'y passait, il était hyper gêné, et il m'a dit qu'il y avait une veillée pour Nel ce soir. Ah, j'étais vexée comme un pou.
Tu sais à quelle heure ça commence?
Tu veux y aller?
Pourquoi pas. Faudrait que je trouve une voiture.
Tiens, au fait, comment il s'appelle ton étudiant? Que je sache.
Willy Nasser. Et quand je te dis qu'il avait vraiment pas le choix, je sais de quoi je parle. Il loge chez moi depuis hier.
Tu l'héberges? Mais t'es malade.
Mais tu ferais quoi, toi, devant un étudiant à la rue?
Ben, je l'emmène pas chez moi.
T'es complètement folle, Laura.
Le lendemain matin, dans les couloirs de la fac, Arnaud Razen alpague Bruno Kwaronski.
Bonjour.
Blainville. On s'apprête à lancer une offensive incroyable à l'échelle internationale. Et on est infoutu de s'organiser autrement qu'en se réunissant au fin fond de la Basse-Normandie. Ça fait peur.
Ça nous protège d'avoir l'air de ringard poussiéreux. Ça nous a été très utile jusque-là.
Luc doit se retourner dans sa tombe.
C'est lui qui a instauré ce principe. Surtout ne pas démentir les clichés. Tant qu'on nous voit comme des barbus à col roulé, toujours le nez dans leurs bouquins, on est tranquille. Tu sais très bien que c'est la raison d'être du soi-disant groupe de lecture. Et de la fausse brouille entre Luc et moi, d'ailleurs. C'est une idée de Luc, ça. Je n'y aurais jamais pensé tout seul.
Ravi de découvrir que tu peux être aussi modeste.
Arrête. Est-ce qu'on peut compter sur toi ce soir?
Évidemment.
Bonjour. Installez-vous.
Sabine était venue me retrouver en salle des professeurs pour qu'on puisse discuter de son DST.
Bon, j'avoue, j'étais pas très fière de moi en vous rendant cette copie.
Mais je vous le confirme, c'est pas votre meilleur travail. Certains passages sont intéressants. La partie 2, là, sur Delphi, est assez convaincante. Mais vous délayez dans la première partie. Tout ce passage-là, il est complètement hors sujet.
Oui. Même en l'écrivant, je me rendais compte que je m'éloignais du sujet, mais j'ai pas réussi à redresser la barre. J'ai l'impression que j'arrive plus du tout à me concentrer en ce moment.
Oui. On vit tous des choses désagréables depuis quelque temps.
Les étudiants, on a été pas mal choqués que Madame Frégo se suicide.
Vous avez contacté la hotline?
J'ai attendu plus de 20 minutes pour parler à une femme et quand je lui ai dit que j'avais pas assisté au suicide, elle m'a demandé de rappeler quelques jours plus tard. Une prof qui se suicide dans la fac, c'est hyper grave quand même. Même si on l'a pas vu tomber.
J'imagine qu'ils n'ont pas assez de monde pour gérer tous les appels.
Mes parents, ils disent toujours qu'à leur époque, la vie d'étudiant, c'était rêve, pas la nôtre. Galère pour se loger, pour bouffer, pour trouver des petits boulots. L'administration n'arrête pas de se tromper avec nos dossiers. Et à la fin, les profs se foutent en l'air.
Je comprends que ce soit difficile, mais vous confondez un peu tout. Les profs ne se suicident pas parce que les étudiants ont des ennuis.
Mais quand même, vous vous rendez compte? Comment il aurait fait, Willy, si vous lui aviez pas proposé de l'accueillir?
Chut! J'aimerais mieux que ça reste entre nous. J'ai absolument pas le droit de faire ça, ce serait très mal vu si d'autres professeurs ou l'administration l'apprenaient.
Je vous promets. Mais franchement, je vous dis merci, c'était vraiment limite pour Willy. Je le connais depuis 3 ans, il est toujours au top, mais l'autre jour, je l'ai vu pleurer.
Il a fait une erreur en suivant ce groupe d'étudiants qui squattait le gymnase.
Qu'est-ce que ça peut faire, s'ils n'ont pas abîmé les locaux?
Malheureusement, l'affaire risque de ne pas s'arrêter là.
Alex, l'ami psy de Vincent, lui avait proposé qu'il se revoie et lui avait donné rendez-vous dans un nouveau restaurant.
Problème sur la 11. Excuse-moi.
Ils sont en train d'encaisser nos prédécesseurs, tout va bien. Comment ça va?
Ça va.
Et Laura?
C'est de pire en pire. Elle s'est mise en tête d'héberger chez nous un étudiant qui a des problèmes avec l'administration.
Sans en discuter avec toi avant?
Ça encore. Non, le souci, c'est que si la fac l'apprend, ça sera la cata pour elle. Quand on brigue un poste, c'est le truc à ne pas faire.
Tu prends l'avenir de Laura très à cœur, dis-moi.
Laura vient pas d'un milieu universitaire. En dehors de ses profs et de quelques collègues qui connaissent son travail, elle a aucun appui. Et depuis la mort de Pyron...
C'est ce que je dis, tu prends l'avenir de ton ami très à cœur.
Tu me fatigues, Alex. C'est ça l'amitié, mon vieux.
L'amitié, hein?
C'est fou ce truc des psys. Toujours avoir de la caquette partout.
Ça, on est une confrérie d'obsédés, je te l'accorde. Mais toi, tu fais comme si ça s'était jamais posé entre vous.
Tu me fais chier. S'il vous plaît, nous allons manger à 2 tables séparées, monsieur et moi.
Non, promis, j'arrête. On parle plus de Laura. On va parler de moi pour changer. Car tel que tu me vois, je suis dévasté, je viens encore de me faire larguer.
Par Cathy ?
Bah oui, évidemment.
C'est la troisième fois cette année, mon vieux.
Oui, bah ça va. Hein. C'est pas parce qu'on est psy qu'on n'a pas le droit de répéter toujours les mêmes conneries.
Christine avait invité son amie Brigitte à déjeuner dans son bureau, où elle avait fait livrer des sushis.
Tu nous as gâtés.
Je supporte plus les restaurants du quartier.
Vous n'avez pas de cantine ?
Je m'astreins à y aller une fois par semaine et je te jure que c'est déjà beaucoup. Excuse-moi, ça doit être Antoine.
Christine, c'est moi. Essaie de rentrer tôt ce soir si tu peux. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu de temps pour discuter. Je t'embrasse.
Il me fatigue.
Il est adorable, ton mari.
Oui, mais en ce moment, il est inquiet et il me fatigue.
De quoi il s'inquiète comme ça ?
Mais il pense que les deux profs qui sont morts ont été assassinés. Il me voit déjà avec une balle dans la tête. Il veut que je démissionne, n'importe quoi.
Il a peut-être raison, c'est quand même un contexte difficile pour présider une université. Tu y tiens tant que ça, ce poste ?
Si je veux être promue, j'ai pas le choix.
Tu as eu des propositions ?
Non, mais... Tu me jures de garder le secret ?
Juré.
Un conseiller de l'Élysée pourrait m'aider.
Je le connais ?
Non.
Oh, tu as tes petits yeux. C'est ton amant ?
Mais pas du tout.
Allez, dis-moi, vous avez...
Mais dîner. Mais c'était agréable, à tout point de vue. Et ce qui n'est pas pour gâcher le tableau, il pourrait suggérer mon nom pour un poste que j'ai depuis longtemps en vue et qui pourrait se libérer prochainement.
Et s'il n'y avait pas de poste, tu trouverais quand même le conseiller agréable ou bien tu es juste intéressée ?
Juste intéressée, évidemment. Oh. Depuis le temps, tu devrais le savoir.
Et Antoine ?
Oh, Antoine, je ne peux pas passer ma vie à l'attendre. Allez, on mange ?
J'avais pris la décision de me rendre à Bainville. Je passais un coup de vent à la maison. Vincent m'y attendait.
Salut.
Salut.
Il y a un paquet pour toi sur la table.
Maman, qu'est-ce que c'est ?
Regarde.
Une veste ? C'est toi, mais t'es fou. C'est pourquoi ?
Pour ta soutenance.
Et pour te faire pardonner d'aller parler de moi avec la terre entière ?
Aussi. Elle te plaît ?
Elle est magnifique. Merci, t'es complètement givrée. Imbuvable comme je suis en ce moment, en plus.
Je sais ce que c'est que de finir une thèse. T'as été sympa avant, tu le seras encore après, je suis optimiste. Puis je crois qu'on s'est...
Dis donc, rien à voir, mais t'es au courant qu'il y a une lecture en hommage à Nel Frigo ce soir à Blainville ?
Non.
Je vais y aller. Je sais pas qui organise ça, mais je suis sûre que je vais pouvoir en apprendre plus sur Nel et Luc.
Tu plaisantes ?
Pas du tout.
T'as une thèse à terminer. Tu crois vraiment que c'est le moment de partir en expédition pour une vieille mortuaire ?
Ça va, au pire je reviens demain matin.
C'est n'importe quoi. T'es en train de sacrifier des années de boulot. Je te jure, ça me tue. Tu t'en rends compte au moins ? Ça... Tu fais chier.
Merde. Vincent ! Ah, Willy. C'est vous ?
Je viens de croiser votre ami dans l'escalier. Il m'a pas calculé. Il est très fâché ou il est très myope ?
Fâché. Mais vous en faites pas, ça a rien à voir avec vous, c'est de ma faute. Bon, je suis pas là ce soir. Vous allez vous débrouiller ?
Vous allez où ?
Je peux pas vous expliquer, je vais en Normandie. Je dois regarder les horaires de train.
Je peux vous conduire, hein, si vous voulez.
Vous avez une voiture ?
Willy avait emprunté une voiture à un de ses ex-collègues de la pizzeria. Et j'avais accepté qu'il me conduise à Blainville.
Mais vous êtes dingue, il a failli nous rentrer dedans !
Mais non !
Vous conduisez comme un pied, Willy ! Vous allez nous tuer ! J'aurais jamais dû... Vous avez pas votre permis ?
Oh, et je voudrais pas dire, mais vous me déconcentrez.
Répondez, vous avez votre permis ou pas ?
Vous croyez que mon pote m'aurait passé sa voiture si j'avais
vous
pas...
Vous l'avez pas !
Bon, ok, je l'ai pas ! Oh, Libor, je conduisais une camionnette à 10 ans.
Mais pas sur l'autoroute ! Qu'est-ce que je suis conne ! J'aurais jamais dû vous faire confiance !
Vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas. Plus je conduis, plus ça revient. C'est la sortie, là, non ? Je vais pas vérifier l'itinéraire, hein.
Mais c'est par là. Non, non, arrêtez-vous, je vais conduire.
Mais non, je vais vous y amener à votre château. Vous n'avez qu'à dormir, là. Baissez le siège, dormez un peu.
Arrêtez-vous.
Faites-moi confiance, Laura.
Pourquoi je fais des trucs pareils ?
Parce que vous sentez que vous et moi, c'est du sérieux.
Conduisez et taisez-vous.
Le château de Blainville était à peine éclairé.
Difficile d'imaginer qu'une réunion y ait lieu. Un vigile était posté devant l'entrée.
Bonsoir, mademoiselle.
Je viens pour la soirée.
Ta soirée ?
La soirée d'hommage, oui.
C'est sur invitation.
J'ai oublié mon carton.
Il n'y a pas de carton. Je peux pas vous laisser entrer, je suis désolé.
Je connaissais Madame Frigo. J'ai le droit d'entrer.
Absolument pas.
Je suis sûre qu'il y a des profs que je connais parmi les invités. Allez les voir, allez leur demander.
L'événement est strictement privé. Mais vous n'êtes pas invité, n'insistez pas.
Je bouge pas d'ici jusqu'à ce que vous alliez chercher quelqu'un. Je parlais avec un prof.
Je vais vous raccompagner.
Et vous faites quoi là? Ça va pas?
Du calme, je vous raccompagne au portail.
Mais lâchez-moi! Pauvre naze! Malade! J'avais demandé à Willy de m'attendre dans la voiture un peu plus loin.
Ça a pas marché?
Ce débile de vigile veut pas me laisser entrer.
Ah bah on va dîner alors. J'ai hâte à moi.
Non, je suis pas venue ici pour rien, je veux entrer.
Vous avez une idée?
Non. Il y a forcément un autre accès.
Il y a aussi plein de restos dans le coin. Vous aimez quoi?
Willy, cette réunion va peut-être me permettre de répondre à des questions que je me pose depuis que Luc Peyron est mort. Il faut que j'y assiste, j'ai pas le choix.
Vous voulez que j'assomme le vigile?
Non. Vous, allez dîner, allez manger des huîtres.
Ça va être vite dur. J'ai 7 euros sur moi. Ça fait combien?
Je vous invite.
Et vous dînez avec moi?
Non. On se retrouve plus tard devant l'hôtel de la mairie.
Attendez!
J'ai pas le temps de discuter, tenez.
Je suis venue au monde pour vous protéger, je vous laisse pas toute seule.
On se retrouve plus tard, je vous dis. Allez. Et vous faites pas arrêter par la gendarmerie, hein, s'il vous plaît.
Mais vous allez faire quoi? Si vous pouvez pas rentrer?
Le mur, ça me rappellera mes 16 ans.
Oh, cette femme te rendra ouf, mon petit Willy.
J'ai fini par trouver une grille mal soudée que j'ai réussi à enlever pour me faufiler au sous-sol et me retrouver dans le noir absolu. Je suis tombée sur un couloir qui semblait déboucher sur la seule salle éclairée de tout le château. Je n'osais plus avancer. J'ai fini par monter sur une chaise pour essayer de voir les participants par un ouvrant donnant sur la salle, mais j'étais trop petite. J'ai collé mon oreille à la cloison, mais je n'entendais qu'une partie de ce qui se disait. Le reste était couvert par le bruit d'une ventilation.
C'est notre chance. De Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. 10e épisode. Avec Tiffaine Rabot-Fournier, Florence Janas, Guillaume Marquet, Slimane Yefsa, Pascal Collin, Flore Bablé, Hélène Alexandridis, Laurence Roy, Philippe Pétieux, Benoît Guibert, Garance Clavel, Jean-Claude Durand, Laurent Lederer, Renaud Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
21 mars. Ce matin, j'ai trouvé Nell accroupie dans un couloir, la tête entre les mains. Je me suis précipité, je l'ai relevée, je l'ai prise dans mes bras. J'ai enserré son corps au plus près pour lui transmettre ma chaleur et ma force, qu'elle s'en nourrisse, quitte à ce qu'il ne m'en reste rien. C'est la première fois que le corps de Nell et le mien se parlaient en dehors de nous-mêmes, comme à côté de nos volontés. J'ai relu d'une traite toute mon histoire avec Nell, notre amitié pseudo-professionnelle, notre complicité intellectuelle et ce qu'elle a créé, ces moments merveilleux absolument libre et flottant, où nous partageons ensemble des discussions dans son bureau ou dans le mien, mais toutes les découvertes que nous avons faites en même temps et toutes ces soirées passées à parler d'autre chose que de nous, à parler... J'ai parfois oublié de quoi. Je serrais Nell dans mes bras, comme si elle avait toujours été ma femme. Elle s'est doucement détachée de moi, elle a murmuré des excuses que j'ai à peine entendues. Je crois qu'elle a parlé de Philippe et de sa sœur. Je l'ai supplié de me suivre dans mon bureau. Je voulais prendre toute sa peine et l'apaiser. J'étais sûr de pouvoir l'aider. Elle a refusé. Elle m'a dit que ce que nous étions en train de construire, ce monde transfiguré, était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Elle m'a fait un salut rapide de la main et elle s'est éloignée. Je suis resté au bureau beaucoup trop tard. Je respirais ma peau pour sentir l'odeur que Nell y avait déposée. J'avais l'impression que si je quittais ce bureau et les bâtiments de l'université, tout allait disparaître. Je suis finalement sorti et c'est ce qui s'est passé. Tout a disparu. En arrivant à la maison, j'ai vu le mot laissé par Sarah. Un mot d'au revoir, simple et sans reproche. Un mot presque joyeux qui m'a cloué sur place. Sarah m'a quitté et cela ne m'étonne même pas. Sarah est partie parce qu'elle refuse d'accompagner ce quelque chose chez moi qui dépérit. Ce quelque chose qui m'a empêché, alors qu'elle était dans mes bras, d'embrasser Nell. Depuis quelques mois, presque un an, je vis deux mouvements contraires. L'un d'expansion, de responsabilité et d'action. Le groupe fonctionne bien, tendu vers ce but commun, partageant la même vision. Et cela me remplit de joie. Et en même temps, dans le même corps, le mien. Un autre mouvement spirale autour du premier sans jamais le croiser. Et ce mouvement est négatif. Je n'y reconnais aucun des états de dépression que j'ai pu traverser plus jeune. Tout cela a disparu à l'aide de l'analyse, du temps, et plus encore du travail, de la discussion, des projets. Cela me porte encore aujourd'hui. Alors quoi? Je devrais sans doute consulter. 3 avril. Consulter un médecin généraliste qui m'a envoyé voir un spécialiste. Le spécialiste a prononcé les mots que je ne voulais pas entendre. Andropause ou déficit androgénique lié à l'âge. Il a évoqué une liste de symptômes que j'ai reconnus. Insomnie, prise de poids, baisse de tonus, diminution de l'appétit sexuel, sudation. Il m'a prescrit un traitement à base de testostérone tout en m'indiquant que ça pouvait ne pas marcher. J'ai refusé le traitement. Si je dois quitter le monde des hommes à testostérone, qu'il en soit ainsi. Je suis de toute façon incapable de prendre des comprimés tous les jours. Je suis tout de même sorti sonné, comme rattrapé par un animal vorace auquel je pensais échapper. Pourquoi est-il si difficile d'entendre que le corps lui aussi vit sa vie? Je ne me suis jamais senti beau, mais je me suis toujours considéré comme souple, agile, élastique. Mon corps me semblait remplir son office. Récemment, j'ai mis sur le compte du groupe mon surplus de tension, ma fatigue et même ma légère prise de poids. Je dois désormais me faire à l'idée que mon corps, comme celui des autres, peut évoluer comme s'il était détaché de moi et agir sur ma perception des choses, qu'il a sa propre emprise sur ma vie. C'est banal et effrayant. J'aurais juste aimé être prévenu plus tôt.